Radio Prague, les informations.
Bonjour, le groupe de Visegrad soutient une coopération plus étroite avec les pays du partenariat oriental. 15,7% des lycéens tchèques ont raté leur baccalauréat et le festival Open House se déroule ce week-end à Prague. La République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie et la Pologne sont en faveur d'une coopération plus étroite entre l'Union européenne et 6 pays ex-soviétiques dans le cadre du partenariat oriental. Les ministres des Affaires étrangères des 4 pays ont en convenu lors d'une réunion qui s'est tenue à Bratislava ce vendredi aux côtés de leurs homologues des pays orientaux. Le prochain sommet du partenariat oriental se tiendra à Riga, en Lettonie, où il devrait être question de la libéralisation du régime des visas pour ces pays. 15,7% des lycéens tchèques ont échoué aux épreuves du baccalauréat cette année. Les mathématiques se retrouvent en queue de peloton avec 24% des élèves ayant raté cette épreuve, suivi de l'allemand avec 20% d'échecs. Une annonce faite ce vendredi par le ministre de l'Éducation, Marcel Hladek. Ces chiffres valent pour les élèves passant leur bac pour la première fois. 6,5% des élèves ont en outre raté les épreuves de tchèque et 6,3% ont échoué en anglais. Le festival d'architecture Open House se tiendra ce week-end à Prague. À l'instar d'une dizaine d'autres villes européennes et américaines, des bâtiments historiques d'ordinaire inaccessibles au grand public ouvriront leurs portes. Il s'agit de la première édition d'un tel événement où 30 bâtiments historiques pourront être visités, tels que la villa de Kramář, siège du Premier ministre, ou le palais d'Invalidovna, les Invalides de Prague, qui abrite les archives militaires centrales. Le patronage de l'événement a été confié à l'architecte Eva Jiříčná, qui avait notamment organisé la première édition de ce festival à Londres en 1992. C'est après 4 ans d'absence que le cinéma en plein air fait son retour sur l'île de Strzelecki à Prague. Dès ce vendredi soir, le cinéma projettera le film culte Trainspotting. Outre de nombreux concerts prévus cet été sur l'île, les organisateurs ont l'intention de projeter des films à la fois tchèques et étrangers de différents genres. Les Pragois peuvent également profiter d'autres endroits dans la capitale où des cinémas en plein air sont prévus, comme au parc de la radio Regina dans le quartier de Karlín, au Bain Jaune ou aussi à la gare ferroviaire de Žižkov, et ce à partir du mois de juin. Après les États-Unis, la Russie et le Canada qu'elle affrontera, la République tchèque s'est qualifiée pour le dernier carré du championnat du monde en battant la Finlande 5-3 ce jeudi à Prague. Devant plus de 17 000 spectateurs, les Tchèques, qui étaient menés 2-1, ont profité de 2 supériorités numériques consécutives pour marquer par Jaromír Jágr et Jan Kovács. Le premier devenu à 43 ans, le joueur le plus âgé à avoir inscrit un but dans l'histoire des mondiaux, a ensuite offert la victoire aux siens. Plus de détails sur le sujet dans nos faits et événements. Puis un mot de météo pour terminer. Très bonne fête à tous les Przemysław en cette journée de samedi. Le ciel reste partiellement ensoleillé et les températures aussi entre 18 et 23 degrés pour les maximales. Dimanche, jour de fête des Aneta, le ciel reste dégagé. En légère baisse, les températures maximales vont de 14 à 17 degrés. Merci d'avoir suivi ce bulletin d'information que vous présentez, Denisa Tomanova. Restez en notre compagnie et en la compagnie de Pierre Maignan pour la suite de notre programme.
Les événements en République tchèque.
Bonjour à tous, mes chers amis, pour la suite de cette émission de Radio Prague consacrée à l'actualité tchèque. Merci tout d'abord à Denisa Tomanova pour son bulletin d'information. Il va y avoir du sport aujourd'hui avec le quart de finale du championnat du monde de hockey sur glace, brillamment remporté jeudi soir par la République tchèque sur la Finlande, avec un Jaromír Jágr qui à 43 ans marche sur l'eau. Après ce reportage à n'en pas douter anthologique de Guillaume Narguet, Anna Kubishta reviendra sur la cérémonie organisée mercredi à l'ambassade de France à Prague, au cours de laquelle le journaliste Zdeněk Velišek et la danseuse Marketa Perou ont été faits chevaliers dans l'ordre des arts et des lettres. Enfin, comme généralement le vendredi, vous retrouverez la traditionnelle revue de presse d'Alena Gebertova. Bonne écoute à tous et à toutes. Les Pragois n'étaient pas beaucoup plus souriants que d'ordinaire ce vendredi matin dans le métro, peut-être à cause de la fatigue ou de l'émotion. Car pour des millions de Tchèques, la nuit de jeudi a été courte, belle, enivrante et même enivrée pour certains d'entre eux, emmenée par un Jaromír Jágr en état de grâce, auteur de 2 buts et d'une assistance. La République tchèque s'est en effet qualifiée pour les demi-finales de son championnat du monde de hockey sur glace en battant la Finlande 5-3. 2023, désormais assurée de pouvoir se mêler à la lutte pour une médaille jusqu'à la fin du tournoi dimanche, la représentatrice, poussée par tout un pays, défiera le Canada de Sidney Crosby samedi dans une demi-finale qui ressemblera cependant fort à une mission impossible, mais tel Napoléon en guerre, Jagr l'a déjà annoncé, impossible n'est pas tchèque. Un reportage de Guillaume Narguet.
Les Tchèques sont, paraît-il, un peuple d'impies et de mécréants. Ils ont pourtant une religion, le hockey, un temple, l'Otu Arena et un dieu, Jaromír Jágr. Élu meilleur joueur du match, le légendaire ailier aux 43 ans sur les épaules et au numéro 68 sur le dos, a livré jeudi soir, devant une salle comble aux anges, très certainement une des performances les plus accomplies de sa carrière sous le maillot de l'équipe nationale, qu'elle soit tchèque ou tchécoslovaque. Un an après la défaite, 3-0, concédée contre le même adversaire en demi-finale du mondial en Biélorussie, Jaromír Jágr et ses partenaires ont pris leur revanche sur une Finlande qui ne s'est avouée vaincue qu'à l'ultime retentissement de la sirène.
Neměli jsme z nich takový respekt, to si myslím, že bylo hodně pozitivní, že jsme na ně vletěli od první minuty.
Nous n'avons pas respecté inutilement les Finlandais. Nous leur sommes rentrés dedans dès la première minute de jeu. Nous avons beaucoup patiné pour les contraindre à jouer sous pression et tout le monde a répondu présent physiquement malgré quelques petites baisses de régime. Moi, je me sens bien, mais ce n'est pas nouveau. J'ai perdu quelques kilos et mon transfert de New Jersey à Florida en cours de saison m'a fait beaucoup de bien. Quand la saison en club s'est achevée, j'ai continué à me préparer dans la perspective de ce mondial en sachant que certains de nos joueurs qui sont en NHL ne pourraient pas y participer. Je me suis entraîné deux fois par jour pour être prêt en cas de besoin.
D'abord auteur du but de l'égalisation à deux partout dans le deuxième tiers-temps, puis d'une assistance sur le 3-2 deux minutes plus tard, et enfin du but victorieux à 4-3 à 5 minutes de la fin de la rencontre, lorsque les 17 000 spectateurs commençaient à se demander quels ongles il pourrait bien encore se ronger durant la prolongation. Jardá Jágr était donc prêt le jour J. C'est lui qui a été le grand artisan de la victoire des siens dans un quart de finale qui, en cas de défaite, aurait signifié la fin du rêve pour les Tchèques. Ovationné comme ses partenaires durant de longues minutes par le public à la sortie de la glace, Jágr a également eu droit à un sacré coup de chapeau de son entraîneur Vladimír Růžička.
Quand Jardá est dans un tel état d'esprit, il joue merveilleusement bien. C'est un leader sur la glace, un exemple pour ses coéquipiers. Il marque, mais il s'est aussi battu comme un lion. Il ne joue pas seul non plus. L'ensemble de l'équipe s'est mise au diapason. Bien sûr, vous ne pouvez pas gagner sans marquer. Et les buts décisifs ce soir, Jardá les a inscrits. Mais il y a aussi 20 autres joueurs autour de lui qui ont été fantastiques et qui ont tout donné en faisant preuve d'une solidarité exemplaire. Et Jardá est un peu leur papa.
Annoncé fermé, prudent, défensif et pauvre en but, avec un Pekka Rinne dans la cage finlandaise, comptant parmi les meilleurs gardiens au monde et élu meilleur joueur du mondial 2014, ce quart de finale entre la République tchèque et la Finlande n'a pas tout à fait répondu au scénario attendu, si ce n'est au niveau de l'incertitude et de l'intensité. Après avoir ouvert logiquement la marque dans un premier tiers-temps entamé pied au plancher et parfaitement maîtrisé, les Tchèques se sont retrouvés menés au score 2-1 sans trop bien même savoir comment au début du deuxième tiers. Mais deux buts inscrits coup sur deux supériorités numériques peu après la demi-heure de jeu leur ont permis de repasser devant un adversaire qui a malgré tout recollé à son tour au tableau d'affichage dans la troisième période. Et alors que se profilait une prolongation irrespirable et fortement déconseillée au cardiaque, c'est le moment que choisit Jaromír Jágr pour faire retentir le dernier coup de son heure de gloire. « Marqué dans une cage finlandaise, déserte dans les ultimes secondes de la partie, le cinquième but a parachevé le succès tchèque, ce dont se félicitait le capitaine Jakub Voracek.
C'est tout à la fois, c'est une grande joie, un grand soulagement et beaucoup d'émotions pour tout le monde. Pour nous, joueurs, pour les supporters et pour toute la République tchèque. Vous savez, un championnat du monde n'est considéré comme réussi que si nous passons le stade des quarts de finale. Mais ça se joue sur un match et tout est toujours possible. Aujourd'hui, Dieu merci, tout est allé dans le bon sens et nous sommes allés chercher cette victoire à 3-3 dans le troisième tiers-temps. Nous sommes restés sereins et nous n'avons pas paniqué malgré la tension. Les Finlandais ont eux aussi eu des occasions, mais nous avons su faire preuve de patience pour inscrire le but décisif. C'est ce qui fait notre force depuis le début du tournoi.
Une fois l'euphorie quelque peu retombée, les Tchèques ont vite tourné la page Finlande pour déjà se plonger dans la demi-finale contre l'ogre canadien, un Canada invaincu qui écrase tout sur son passage depuis le début de ce mondial et qui avait nettement dominé la République tchèque en match de groupe la semaine dernière 6-2. Pour autant, s'il reconnaît la supériorité des Crosby, Giroud et de la ribambelle des stars NHL qui évoluent à Prague cette année sous le maillot frappé de la feuille d'érable, Jaromír Jágr se dit convaincu que sur un match, et pourquoi pas donc justement cette demi-finale, un exploit reste possible.
Les gens vont croire que je suis tombé sur la tête, mais je pense que les Canadiens sont prenables. Ce sont tous des joueurs fantastiques et peut-être le Canada n'a-t-il jamais eu une aussi belle équipe dans un mondial. Mais ce sont des hommes, comme nous. À nous de ne pas les craindre, sinon on en prendra 10 des buts, comme les autres équipes. Il ne faudra pas avoir peur de jouer. Avec les Canadiens, nous ne pouvons pas boxer pendant 12 rondes. Nous n'aurions aucune chance. Il faut prendre des risques pour les mettre KO. C'est ce que nous avons essayé de faire dans le premier match. Mais bon, ça reste une équipe. Si le Canada joue son meilleur hockey, nos chances seront infimes. Mais tout est possible.
Et si Jarda le dit, alors just do it.
Mercredi, le journaliste spécialiste de la France et traducteur Zdeněk Velišek et la danseuse et co-directrice du festival de danse Tanets Praha, Markéta Perou, ont été faits chevaliers dans l'ordre des arts et des lettres à l'ambassade de France à Prague. Anna Kubista vous propose à cette occasion un portrait de Zdeněk Velišek, tandis que nous reviendrons sur la carrière de Markéta Perou dans quelques temps sur nos ondes.
Il est de ces personnalités discrètes et toutes pétries de modestie dont on oublierait presque l'apport considérable à la culture, au débat public ou à la réflexion. Dans le domaine des relations franco-tchèques, le journaliste télévision et radio, mais aussi traducteur Zdeněk Velišek est de ceux-ci. Et au-delà de l'honneur proprement dit que représente la distinction qui lui a été remise mercredi, c'est peut-être surtout là que réside tout l'intérêt de cette petite croix épinglée au veston. Rappeler le travail et la passion qui animent certaines personnes qui ne songeraient pas à le clamer sur tous les toits. Né en 1933, Zdeněk Velišek a derrière lui une longue carrière de journaliste de télévision débutée en 1968 au moment du printemps de Prague, interrompue aussi net, avant de s'épanouir enfin après la révolution de velours. Ses études d'espagnol, mais surtout de français, lui permettent alors de s'imposer comme correspondant principal de la télévision publique tchèque pour la France. Zdeněk Velišek se souvient, non sans une petite pointe de malice qui lui est propre.
C'est le comble de ma joie aujourd'hui, parce que j'ai obtenu cet ordre comme une confirmation d'une réalité virtuelle. La télévision est une réalité virtuelle et j'ai réussi à me faire correspondant de la télévision tchèque en France et même pour beaucoup d'années. Virtuellement, parce que j'ai été ici à Prague. Je travaillais ici à Prague. Je visitais pour une semaine, trois jours, deux semaines au maximum. Et je faisais mes reportages et je rentrais.
Aujourd'hui, loin de songer à la retraite, Zdeněk Velišek est plus actif que jamais. À côté de son travail de traducteur d'auteurs français, tels que le politologue Gilles Kepel, par exemple, il continue d'intervenir pour la télévision tchèque dans le cadre d'une émission d'analyse de l'actualité dans le monde, ainsi que sur le site internet de la télévision tchèque, en animant un blog où il fait part de ses réflexions. Et c'est pour la radio tchèque qu'il suit toujours activement tout ce qui se passe en France, des attaques terroristes à Charlie Hebdo, au récent voyage de François Hollande dans les Caraïbes, en passant par la situation des Rome en France. Avec l'humilité qui lui est propre, Zdeněk Velišek estime avoir pu rendre compte de l'actualité française en ne tombant pas dans les écueils des clichés qui s'attachent à l'Hexagone.
Mais c'est un travail pour, pas seulement pour une seule vie. Vous savez, ça a besoin d'une génération, ça a besoin de quelqu'un qui puisse me comprendre parfaitement et continuer ce travail. Et je crois que ça vaut la peine de faire revivre ces temps où le Vltava avait une confluence avec la Seine.
Peut-être parce qu'il est d'une génération pour qui le passé est tout aussi important que le présent, Zdeněk Velišek rappelle volontiers l'âge d'or des relations franco-tchèques dans l'entre-deux-guerres, au temps de la Première République tchécoslovaque, non sans quelques regrets que celle-ci ne soit plus aussi intense.
Oui, c'était justement ça qui m'a inspiré à consacrer mon travail partiellement à la France, parce que l'Europe, c'est le champ de travail un peu plus large, et je consacre beaucoup de reportages, et maintenant déjà beaucoup de commentaires, parce que je ne fais plus de reportages. Je le regrette beaucoup, mais je ne le fais vraiment pas. Ce qui m'a inspiré pour tout ça, l'intimité entre les deux cultures, surtout les deux cultures, mais ce n'était pas seulement cela. Il y avait un lien aussi dans l'armée, dans le militaire, la politique aussi, mais jusqu'à Munich, n'est-ce pas? Après, malheureusement, ça s'est gâché complètement. Mais cette histoire, nous la connaissons tous déjà.
Européen convaincu, Zdeněk Velišek ne se prive pas pour autant de critiquer une Union européenne qui tend parfois à oublier les valeurs sur lesquelles elle a été fondée, ni même les hommes politiques tchèques qu'il considère comme timorés lorsqu'il s'agit de promouvoir l'idée d'intégration européenne par peur de perdre les voix de leurs électeurs. À 82 ans, Zdeněk Velišek a toujours son mot à dire.
C'est l'heure de la revue de presse d'Alena Gebertova. La Tchéquie déclare sa réticence face aux quotas européens concernant les réfugiés. La population rom est de plus en plus absente à Prague, qu'elle ne cesse de déserter. Le réalisateur Jan Niemetz se rend au Festival de Cannes pour y tourner une partie de son nouveau long métrage qui évoquera l'édition 1968 du festival. Les Tchèques, encore eux, qui ont rarement recours à la grève. Les brasseries, qui se présentent comme l'un des gagnants des championnats mondiaux de hockey sur glace. Voici quelques-uns des sujets retenus cette semaine dans la presse imprimée ou électronique par Alena Gebertova.
Miroir de la société à la lumière de la presse.
La Tchéquie ne dispose pas d'assez de places pour pouvoir accueillir des milliers de demandeurs d'asile, comme le stipule la Commission européenne. C'est ce que pensent dans les pages du quotidien Mladá Frontanes Ivana Karaskova dans un des nombreux articles qui se penchent dans la presse sur la volonté de la République tchèque de décider souverainement de la manière dont elle aidera les réfugiés et de refuser d'éventuels quotas imposés par l'Union européenne. Elle précise.
Le climat marquant les années 1990 où la Tchécoslovaquie a été prête à accueillir près de 5000 ressortissants de l'ancienne Yougoslavie, notamment de Bosnie, et où 32 camps pour réfugiés ont pu être rapidement édifiés, a foncièrement changé depuis. La société est aujourd'hui plus fermée et beaucoup plus réticente à l'égard des étrangers, notamment ceux qui viennent de pays africains et arabes. L'éventuelle réalisation du projet d'établissement dans le pays d'un grand nombre de réfugiés mettrait la Tchéquie dans une situation délicate.
Ivana Karaskova rappelle que les camps, remontant aux années 90, n'existent plus en raison du coût trop élevé de leur entretien. La capacité totale des quatre camps existants varie désormais autour de 700 places. L'éditorialiste constate également que si une grande partie de la représentation politique tchèque s'oppose aux quotas proposés, les personnes en charge des réfugiés plaident pour une plus grande solidarité, citant les paroles de Pavel Duba de l'Association pour l'intégration et la migration qui dit.
Dans les années 1990, lors du mandat présidentiel de Václav Havel, nous étions beaucoup plus ouverts à l'égard des réfugiés. Depuis, les sentiments de solidarité ont disparu.
Dans une analyse publiée sur le site eco24.cz et concernant les causes de la réticence d'une grande partie de la population tchèque à l'égard des réfugiés, Ondřej Štindl observe.
La majorité des habitants de la Tchéquie ont grandi dans une société qui a été, sur le plan de la nationalité, homogène. Aujourd'hui, elle craint un changement possible. Dans le contexte de l'histoire tchèque, une réduction de cette homogénéité, qui signifie pour beaucoup une grande valeur, ne représente pas pour autant un changement radical, mais plutôt un retour à la normale. Ce pays a toujours été assez multinational, tandis que son caractère unifié a été le fruit des catastrophes de la deuxième moitié du siècle écoulé. Compte tenu de l'évolution actuelle dans le monde, il est inimaginable d'insister sur la persistance de la pureté du territoire tchèque. Un rêve qui d'ailleurs ne mérite pas, pour différentes raisons, d'être rêvé.
Ces dernières années, la population rome quitte massivement la capitale tchèque en raison notamment de l'augmentation du prix des loyers, de la réduction de certaines branches industrielles et des activités liées à la pauvreté. Ce phénomène de société est décrit dans un texte mis en ligne sur le serveur idnes.cz qui constate entre autres.
Selon les évaluations d'experts, un Rome sur deux a quitté ces derniers temps Prague pour aller vivre ailleurs. Cet exode concerne même les quartiers roms traditionnels comme Karlin, Smichov, Žižkov ou Libeň. Les Roms sont désormais presque absents, par exemple, dans le quartier de Smichov, où ils étaient près de 3000 il y a quelques années encore, car celui-ci a été remanié en un centre urbain moderne avec des prix élevés du logement et des services. Cette tendance s'est manifestée aussi à Karlin, un des quartiers pragois qui a été lourdement dévasté par les inondations de l'an 2002.
Les Roms de Prague se déplacent en premier lieu vers la Bohême du Nord et la Bohême centrale. C'est d'ailleurs cette migration qui est en partie responsable de la création de ghettos problématiques dans les villes de Litvinov et de Chomutov. Une grande partie des près de 15 000 Roms qui demeurent actuellement à Prague, en dépit de leurs conditions sociales difficiles, vivent dans des quartiers périphériques, tandis qu'au centre, on voit vivre notamment des Roms qui ont obtenu des diplômes et sont insérés dans le monde du travail. Ceci dit, des chiffres précis les concernant n'existent pas, car lors du dernier recensement de la population, nombreux étaient ceux qui ont préféré ne pas déclarer leurs origines. À l'instar des années précédentes, cette année encore, le cinéma tchèque n'est pas représenté en compétition au Festival de Cannes. Celui-ci verra tout de même la présence de l'un des plus grands réalisateurs tchèques, Jan Němec, un des protagonistes de la fameuse nouvelle vague du cinéma tchécoslovaque des années 1960. C'est la quatrième fois que le réalisateur se rend à Cannes, pour la première fois pourtant avec une caméra, pour y tourner les premières scènes de son nouveau film intitulé « Le loup » de Vinohrady, inspiré par son livre de souvenirs sur des motifs autobiographiques. Et c'est justement un drôle d'événement que le réalisateur a vécu à Cannes en 1968 qu'il veut maintenant tourner sur place et qu'il a décrit pour les pages culturelles du quotidien « Nada Frontanes ».
À l'époque, les révolutionnaires et les intellectuels français de gauche, en tête avec Jean-Luc Godard, pour lequel j'ai par ailleurs beaucoup d'estime, ont anéanti une édition du festival lors de laquelle les Tchèques avaient pour la première et la dernière fois trois films en compétition. Miloš Forman avec Au feu les pompiers, Jiří Menzel avec Un été capricieux et moi-même avec le film La fête et les invités. Selon la stratégie prévue à l'avance, chacun d'entre nous devait recevoir un prix, y compris la Palme d'Or, que personne de chez nous n'avait encore jamais gagné.
Comme on le sait, il n'en a pourtant rien été, car le festival, qui a été clos de manière anticipée, n'a, cette année-là, remis aucun prix. C'est donc un film rétro que Yann Yemes envisage de tourner ces jours-ci à Cannes, pendant qu'un intéressant jeu de circonstances veut que le Festival de Cannes en soit cette année à sa 68e édition. Pour le réalisateur, qu'il s'était fait remarquer en 1968 en faisant passer à l'ouest des scènes filmées lors de l'occupation de la Tchécoslovaquie par l'armée soviétique, il s'agira de son 11e long métrage. Les Tchèques n'aiment pas trop les grèves. Un article publié dans le quotidien Lidové noviny qui se réfère aux résultats d'une analyse de la société canadienne WSI et qui le confirme de façon éloquente indique.
Les employés tchèques qui souhaitent imposer leurs revendications sociales ou salariales ont très rarement et exceptionnellement recours à la grève. Une situation pareille existe également dans les autres États post-communistes où la position des syndicats est nettement plus faible que dans les pays occidentaux. Être membre d'un syndicat sous le régime communiste était une obligation contraignante pratiquement pour tout le monde. Voilà pourquoi les gens sont encore aujourd'hui très réticents à l'égard des syndicats.
Le journal rappelle que durant les 20 dernières années, la Tchéquie n'a connu que très peu de grèves, dont celle des cheminots en 1996 ou encore, 9 ans plus tard, celle des employés du secteur public. À noter encore la grève d'une journée du métro de Prague, s'inscrivant dans le cadre d'une grève nationale dans le secteur des transports. Et l'auteur de l'article de conclure que l'ensemble des grèves que la Tchéquie a vécues en l'espace de ces 20 années correspond au nombre de celles que beaucoup des pays occidentaux enregistrent en une seule année. Avant même la fin du championnat du monde hockey sur glace à Prague et à Ostrava, qui culmine ce dimanche par la finale, les médias sont d'accord pour désigner un vainqueur certain, les Brasseries. L'édition de ce mardi du quotidien Lidové noviny a écrit à ce sujet.
Même si la sélection nationale tchèque ne gagne aucune médaille, la Tchéquie pourra célébrer le succès de sa bière. Le mondial a fait effectivement venir dans des brasseries et dans des restaurants des milliers de personnes, y compris celles qui d'habitude ne les fréquentent pas. Les brasseries se présentent alors comme un des gagnants de ces championnats.
La vente de centaines de milliers de bières sur le lieu de la tenue du championnat du monde à Prague et à Ostrava a été répartie entre trois principales brasseries tchèques, Prazdroj, Staropramen et Heineken, avec la marque Krušovice qui est le sponsor principal de cet événement sportif. Et le journal de souligner qu'à l'heure actuelle, où la vente de la bière sur le marché local a tendance à baisser, car les gens préfèrent de plus en plus souvent consommer cette boisson chez eux, chaque possibilité pour les brasseries de se faire valoir et de se visualiser est la bienvenue.
Voilà, c'est avec la revue de presse d'Alena Gebertova que s'achève cette émission. Merci d'avoir suivi ce programme que vous présentez Pierre Ménian. Si vous souhaitez retrouver nos émissions, c'est bien sûr possible sur Internet, sur le site www.radio.cz/fr ou encore sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou encore sur Twitter. Merci à tous, à bientôt, ahoy et très bon week-end bien sûr.